Europe 1.
Europe 1, 10h, 11h, Mediapolis. Olivier Duhamel.
Oui, bonjour à tous. C'est Mediapolis, l'émission sur les rapports entre médias et politiques, réalisée par Julien Blanc et préparée par Hélène Terzian. Alors, si vous aimez les opinions, des opinions fortes et tranchées, vous serez content parce que nous avons parmi nos invités Eugénie Bastier, journaliste au service débat et opinions du FIAO. Et si vous aimez mieux comprendre l'opinion, eh bien vous serez content aussi parce que vous avez Brice Teinturier, directeur général de l'Institut Ipsos. Et en attendant de débattre avec nos deux invités, si vous aimez rire un peu, compte-nous.
Pour parler de ce document que Fabrice Arfi a révélé dans Mediapart, on est en ligne avec le chef de l'État.
Allô ?
Oui.
Oui, bonjour. Oui, bonjour à toutes et à pardonnez-moi, je suis à tête
bonjour,
ailleurs, excusez-moi. Je suis en plein petit déjeuner, pardonnez-moi. Ah. Oui, j'essaye de me détendre, je suis tout scarifié ce matin.
Ouais, pareil, oui.
La politique va scarifier encore toutes les nuits. Bonjour à vous, madame Dacosta.
Bonjour.
C'est bien, je vous fais ici, vous prenez du galon.
Je vous remercie.
Vous savez, il ne faut jamais hésiter à piquer un emploi quand
non.
On peut. Hein. Vous avez poussé madame Julie dans les escaliers,
c'est ça
la vérité, dites-le aux auditeurs, allons.
Non, c'est pas définitif, c'est juste pour aujourd'hui. Et d'ailleurs, elle sera de retour lundi.
Non, mais je ne vous justifiez pas, je vous taquinais.
Alors, monsieur Macron, le journaliste Fabrice Arfi de Mediapart a donc rendu public cet enregistrement. Vous auriez dit, tu vas les bouffer.
Oui, alors là, je ne comprends pas. Comment ont-ils fait pour obtenir un enregistrement comme ça? C'est fou, c'est délirant. La presse doit obéir à certaines règles. Et je pense que... Qu'est-ce que vous faites là, vous? Non, mais... Écoutez, je viens à l'instant d'ouvrir mon frigo et Fabrice Arfi est là dans le bac à légumes. Alors,
dans le bac à légumes.
Non, mais c'est fou, ça, en fait. Bref, cet enregistrement... Non, oui, vous sortez. Bref, je disais, cet enregistrement, est-ce vraiment important? Moi, j'ai toujours demandé l'indulgence pour Alexandre Benalla. C'est vrai que...
Et je...
Non, mais c'est pas vrai. Mais ça... Non, mais vous le croirez? Non. Êtes-vous Éplénel dans ma corbeille à linge? Non, mais non, ça va bien, oui. Mais franchement, alors, je vous disais donc, pour reprendre mes esprits, qu'est-ce que c'est le rideau qui bouge? Qu'est-ce que c'est que ce qui bouge derrière le rideau? Vous sortez de là, vous! Non, mais c'est pas vrai, pas vous.
Excusez-moi, pardon. Pardon, monsieur le président. Monsieur Rofan aimerait bien avoir des scoops de temps en temps aussi. Alors je me suis dit que tiens,
franchement, monsieur Paty, c'est pas de votre niveau, franchement. Bon, voyez, je le regrette, Alexandre Bellat, quelque part. Depuis qu'il est plus là, la sécurité se relâche. Hein, ils vous auraient tous bouffé en son temps.
Et voilà, c'était donc hier matin, juste après les révélations ou informations ou suppositions de Mediapart qui, d'une part, indiquerait... Ou indique clairement d'ailleurs que le contrôle judiciaire n'a pas été respecté puisqu'il a rencontré M. Crass et il n'avait pas le droit de se rencontrer l'un et l'autre. Deuxièmement, que le président de la République aurait continué de le soutenir. Et troisièmement, qu'il aurait pu participer à des affaires avec des sociétés de sécurité liées à un oligarque russe lorsqu'il était à l'Élysée. Est-ce que c'est grave, Eugénie Bastier?
C'est grave, mais je pense pas qu'on soit en face d'une affaire d'État. Hein. Si tant est qu'il faille définir ce que c'est qu'une affaire d'État, mais en tout cas, pour le moment, l'idée que l'État serait impliqué dans les affaires de M. Benalla ou qu'il ait impliqué le président de la République dans ses affaires n'est pas du tout démontrée. Donc j'ai du mal à parler d'affaires d'État. Ce qu'on a, c'est un soupçon d'affairisme de la part de deux personnes qui étaient proches du pouvoir. On a évidemment une désinvolture d'Emmanuel Macron par rapport à sa relation avec M. Benalla. Mais pour le moment, je ne vois pas d'affaire d'État. Et j'ai tendance à penser qu'on en fait beaucoup avec cette affaire. Hein, et je ne suis pas d'ailleurs la seule à le penser, puisque vous vous souvenez de l'enquête Quentin Saufresse pour La Croix sur les médias, la défiance envers les médias. Les Français disaient que les trois sujets dont on avait beaucoup trop parlé dans les médias, c'était l'héritage de Johnny Hallyday, 80%, et en deux, l'affaire Benalla, 60%. Donc, je pense que les Français aussi pensent qu'on parle trop de l'affaire Benalla et qu'on en fait un peu, un peu trop les relations.
L'émission voilà. Commence super bien. Moi, j'étais absolument persuadé que vous alliez vous déchaîner contre Macron, Benalla, affaire d'État et tout. C'est tout le contraire. On adore être surpris dans cette émission. C'est parfait. Les Français, ils trouvent que too much is too much. Et même après les nouvelles informations ou révélations de Mediapart, Brice Teinturier.
Non, effectivement, je vous rejoins. Je ne pense pas que pour les Français, ce soit une affaire d'État. D'ailleurs, au moment où il y a eu l'affaire Benalla en juillet, on avait travaillé sur cette dimension. Et très clairement, il y avait une majorité de Français qui relativisaient l'affaire. Malgré tout, c'est bien avec l'affaire Benalla, la première, que la popularité d'Emmanuel Macron a commencé à se désagréger fortement. Pas uniquement pour ces raisons, il y avait beaucoup d'autres choses, et notamment des thèmes économiques et sociaux qui étaient à l'œuvre, mais ça a donné le sentiment aux Français que dans le système de choix du président, dans sa façon de manager les équipes, dans les personnes qui faisaient partie de son entourage, là, il y avait des choses à redire.
Donc c'est un pas peu grave, le retour. Mais c'est sérieux.
Voilà, c'est un peu le retour malgré tout cela. Comme vous l'avez dit, dans un climat aussi d'affairisme supposé, et donc ce n'est pas bon, même si c'est une affaire, aux yeux de l'opinion, je crois, plus mineure que tout ce qui la préoccupe véritablement et qui sont, une fois encore, les sujets plutôt économiques, sociaux, fiscaux. C'est ça qui constitue le cœur des attentes de nos concitoyens.
Eugénie Bastier, est-ce que vous et vos amis journalistes du Figaro, qui ont très certainement fait des enquêtes que moi je ne peux pas faire, seriez en mesure de au moins mettre une hypothèse plausible sur la question qui, moi, m'intrigue absolument, qui est qui a pu faire cet enregistrement ?
Alors là, écoutez, vous savez que le secret des sources est sacré.
Oui. Ça veut dire que vous le savez, mais vous ne me le direz pas, c'est ça ?
Ah non, mais je pense que Mediapart le sait. Mais je pense que, et d'ailleurs, la question a été posée à M. Arfi qui a répondu secret des sources. En revanche...
Mais j'imagine que vous et vos collègues, vous avez entendu des hypothèses. Est-ce qu'il y a des hypothèses
écoutez,
moi
je n'en sais rien. Je ne sais pas si la source est policière, judiciaire... ou journalistique.
Mais parce que si
je trouve toujours moi les méthodes de Mediapart assez curieuses. Hein, elles sont, Mediapart est coutumier du fait de révéler des pièces de dossiers judiciaires ou des écoutes. On l'a vu avec l'affaire Sarkozy évidemment. Moi je trouve ça un peu délicat. On n'est pas dans le Watergate ni dans le Pentagon Papers. Ce sont pas des sujets non plus essentiels à la démocratie. Et je trouve ça toujours un peu délicat les méthodes de Mediapart.
Une source judiciaire, ça paraît quand même très difficile parce que si violation du contrôle judiciaire fin juillet, ils auraient quand même peut-être pas attendu 6 mois pour prendre des mesures.
Ou alors une source policière, j'avoue que je n'en sais rien et je n'ai pas d'hypothèse confirmée là-dessus.
Parce que c'est là où c'est compliqué, parce que d'un côté les journalistes en effet veulent préserver leurs sources et de l'autre c'est quand même éventuellement une affaire dans l'affaire. De savoir qui se
bien sûr,
permet
et c'est, vous avez raison de le souligner,
c'est, sonoriser, c'est... parce que c'est même pas une écoute téléphonique. Hein, ces deux personnes se sont parlé quelque part,
oui.
Et dans ce quelque part, elles étaient écoutées. Ce qui veut dire que le lieu, enfin, soit il y avait 13 personnes avec son téléphone, mais ça paraît peu probable, soit on a sonorisé... la pièce en sachant qu'ils iraient, donc il y a quand même quelque
et
chose...
Et on voit mal, en dehors de l'instance policière ou judiciaire, qui peut sonoriser des personnes
Mais on comprend très bien le secret des sources, comme vous le dites. Cela étant, je crois que pour les Français, ça participe aussi de cette défiance à l'égard des médias, puisqu'on a des informations et pour l'opinion, il est impossible de savoir ce qui relèverait d'une information vérifiée avec le secret des sources ou d'éléments beaucoup moins probants, beaucoup moins sûrs et qui constituent une information ou une pseudo-information que l'on commente, etc. etc.
Cela dit, vous ne pensez pas que pour une partie non négligeable des Français, le fait que on révèle des choses qui sont quand même forcément négatives pour le président de la République, dément un peu la thèse de la connivence permanente entre les médias et le pouvoir, non ?
Mais ce qui est tout à fait fascinant, c'est qu'effectivement, plus les médias donnent des éléments de preuve, en tous les cas, je le crois vraiment, de cette non-connivence avec le pouvoir politique, d'indépendance, et moins les Français semblent y adhérer. C'est-à-dire l'idée que les médias, les journalistes seraient dépendants du pouvoir économique et du pouvoir politique est une idée puissamment enracinée chez les Français, qui ne régresse pas. Et il y a beau y avoir des interviews de plus en plus dures ou des investigations de plus en plus vives, gênantes pour les politiques, ça ne semble pas entamer ce climat de suspicion. Donc là, on a quelque chose de très sédimenté.
C'est à désespérer, en quelque sorte.
Je crois que ça fait bien longtemps qu'on a pu se rendre compte qu'il n'y avait pas de connivence entre les médias et Emmanuel Macron, puisqu'il a été sévèrement attaqué. Et même d'ailleurs, dans un retournement qui est quasiment spectaculaire. C'est-à-dire que, comme, pour reprendre la formule de Jean-François Kahn, c'était lécher, lâcher, lyncher. Et on l'a vu avec certains médias qui, après avoir porté au nu Emmanuel Macron pendant la campagne, se sont mis à faire du bashing, pour dire systématique.
Oui, mais après lyncher, peut-être qu'un autre cycle commence. On va voir ça dans quelques instants.
La suite de Mediapolis est avec vous, Olivier Duhamel, et vos deux invités, Brice Tenturier, directeur général de l'Institut Ipsos, et Eugénie Bastier, journaliste au Figaro.
Alors je sais que nos auditeurs aiment bien découvrir quand ils ne les ont pas entendus ou réentendre quand ils les ont entendus quelques-uns des sons forts de la semaine. Alors juste pour clore la discussion précédente, on va quand même vous donner un petit bout de l'enregistrement publié, rendu public par Mediapart jeudi.
Par rapport à truc de dingue, le patron hier soir il m'envoie un message. Je dis tu vas aller bouffer. T'es plus fort qu'eux, c'est pour ça que je t'avais auprès de moi. Je suis avec Aïsma, etc. On attend le monde, machin, etc.
Donc le patron nous soutient?
Ah mais il fait plus que nous soutenir. Il a dit je me suis senti trahi, j'ai été déçu. Il y a eu de la trahison et de la déception sur le 1er mai. Ça remet en aucun cas en cause la confiance que je peux leur porter, enfin je peux lui porter par les mains en l'occurrence, tu vois. Que je peux lui porter sur machin. Il l'a redit encore et je suis fier d'avoir embauché Alexandre Benalla à mon cabinet. Sur le reste, la justice, elle fera son travail.
Donc ça, c'est Macron selon Benalla. Après, il y a Macron selon Macron, c'est-à-dire la multiplication de ses participations au grand débat. Alors, j'ai quand même noté quelque chose d'intéressant, c'est que hier, où il était à l'Élysée avec des représentants de l'outre-mer, c'est la première fois que les chaînes info ne l'ont pas retransmis en direct, en totalité, comme ils avaient fait dans les trois fois précédentes, si je ne me trompe pas, il y en avait trois avant. Et seule CNews l'a passé et s'est arrêté à 19h, parce qu'il trouvait que c'était trop. Et ça, c'est quand même assez significatif que les chaînes info considèrent que, bah, point trop l'info, quoi.
Oui, et peut-être la question de... C'est assez significatif aussi sur le désintérêt sur la question de l'outre-mer. Hein, puisque, aussi, voilà, la France périphérique... Parce qu'en fait, il y avait un vrai audimat hein, sur ces retransmissions. C'est pour ça, d'ailleurs, que les chaînes d'infos continuaient à les transmettre. C'est parce que les gens regardaient. Donc, il y a un véritable intérêt pour cette représentation. Après, on peut parler de la question du grand débat. Moi, je pense que ça pose cette espèce de seconde campagne d'Emmanuel Macron pose plusieurs problèmes et notamment celui à mon avis d'une décrédibilisation de la parole politique et de la fonction présidentielle puisqu'on voit un président de la République en fonction se comporter encore comme un candidat et finalement aller...
Mais pourquoi discuter avec des maires, c'est forcément un comportement de candidat?
Écoutez,
on reproche aux hommes politiques, et particulièrement aux plus importants d'entre eux, l'isolement, la bunkérisation, l'enfermement, l'absence de dialogue, le piétinement des corps intermédiaires. Et puis, paf, il se met à aller parler partout avec des maires. Et là, on lui reproche d'être candidat. Donc, s'il se tait, on lui reproche de ne pas parler. Et s'il parle, on lui reproche de parler.
Mais je crois qu'il est passé d'un excès à un autre. Emmanuel Macron a du mal à trouver la juste mesure. Et comme le dit très justement Jean-Pierre Le Goff dans une grande interview qu'il a donnée au Figaro hier, on a le sentiment d'un président manager, débatteur, et un peu d'une boîte à idées managériale qui n'est pas conforme à l'idée qu'on se fait de la fonction présidentielle. On a vu également Marlène Schiappa chez Cyril Hanouna. Moi, je trouve qu'il y a un processus très grave de décrédibilisation du politique. Le politique réduit à une forme de question pour un champion, puisque voilà, on a un président de la République qui, en effet, maîtrise tous les dossiers.
Question pour un champion, oui, vous caricaturez.
C'est vrai, il y a une espèce de... Voilà, qui a un président de la République qui va dans l'arène et qui évoque, qui doit répondre à tous les sujets, ça va du cadastre jusqu'aux 80 km/h en passant par le coût de l'essence et le coût de la vie. Je trouve que ça participe d'un abaissement de la fonction présidentielle. D'accord. Et je trouve ça assez dangereux.
Moi, je répète mon objection, s'il ne connaît pas le coût de l'essence, c'est vraiment qu'il est coupé du peuple. Et s'il connaît le coût de l'essence, c'est qu'il fait question pour un champion. Je trouve, Eugénie Bastier, que vous y allez un peu fort. Les Français pensent comme Eugénie Bastier, Brice Nathalie.
Non, je ne crois pas pour le coup.
Enfin,
ce serait pas rassurant.
Tout le monde a une définition implicite et justement jamais explicitée de ce que serait ou devrait être la fonction présidentielle. Alors parfois on nous dit qu'elle doit être exercée avec une incarnation forte, voire sacralisée, mais à ce moment-là on reproche l'éloignement ou le monarque, et quand le monarque rentrerait en relation davantage avec les Français, au nom toujours de la conception de ce que devrait être la fonction présidentielle, on dit mais là il est trop dans l'arène, il abaisse la fonction présidentielle, etc. Moi ce que je constate à travers nos enquêtes, c'est simplement que les Français avaient le sentiment d'un président coupé des réalités, qu'on lui a beaucoup reproché d'écraser les corps intermédiaires, alors que sa promesse originelle de campagne, c'était « je vais débloquer ce pays en faisant de la politique autrement et en m'appuyant sur la société civile », C'est ça qui est la promesse, je crois, fondamentale d'Emmanuel Macron pendant la campagne. Et ce n'était pas tout à fait cohérent avec une présidence plus verticale, plus jupitérienne et qui ne s'appuyait pas justement sur la société. Donc il change, il a raison de changer, ça peut surprendre, ça peut déplaire. Mais je crois qu'il est beaucoup plus en phase avec les Français quand il est en relation avec eux que dans la phase précédente d'une présidence dite jupitérienne.
Bon, par ailleurs, le grand débat ne se résume pas aux prestations du président de la République.
Mais justement, elle les écrase le reste.
Bah, c'est vous qui le dites, mais pas forcément. Enfin, il y a quelqu'un qui pense comme vous, ça va vous rassurer, c'est Alexis Corbière.
C'est annoncé comme un grand débat, et tout ça va terminer comme un grand dégât. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est sur quoi ça atterrit tout ça. Le débat, c'est intéressant. La question, c'est que si le peuple a la parole, le peuple doit décider. C'est le fond du sujet.
Donc, Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, jeudi sur France Inter. Génie Bastier, donc vous sentez en harmonie avec la dénonciation mélenchonienne du grand débat ?
Non, mais c'est vrai qu'on a l'impression que ce débat est moins l'occasion de véritables propositions venant du bas qu'une forme de pédagogie des réformes venant du haut. Quand on voit Emmanuel Macron au milieu de la foule, c'est Emmanuel Macron qui explique pourquoi il a raison et pourquoi ce qu'il fait va dans le bon sens, etc.
Non, mais d'accord, mais là, je ne vous parle plus de Macron, je vous parle du fait qu'il y a quand même des milliers de débats qui se passent.
Et ça, c'est bien,
et qu'il y a quand même, je sais, on en est à quoi, 150, 200 000 contributions qui ont été mises sur le site internet.
Non, mais ça, très bien, je pense que ça, j'espère juste que cette catharsis générale ne donnera pas lieu à une forme de déception, parce que c'est ça le risque, c'est-à-dire que si cela ne donne rien de concret, et comme c'est souvent le cas des consultations publiques, il faut le rappeler, c'est-à-dire qu'il y a régulièrement des consultations publiques.
C'est un autre sujet.
Non, mais
vous êtes victime de ce que... Moi, je vais inventer un néologisme qui s'appelle le crassisme. Si je ne me trompe pas, crasse, c'est demain.
Crasse.
Crasse. C'est pas demain en latin ?
Ah oui.
Hein ? Et le crassisme, c'est l'obsession du demain. C'est-à-dire, vous avez un grand débat qui commence, il est à peine commencé que tout le monde vous dit « Alors, comment ça va se terminer ? Qu'est-ce que va faire le pouvoir ? Qu'est-ce qu'il doit en retenir ?» T'as envie de dire « Attends, attends !» Vous avez une élection qui se produit... vous avez un vote qui se produit à la Chambre des communes, avant même d'analyser le vote qui vient de se produire, et alors demain, et alors demain, et alors demain. C'est le crassisme. Mais restons-en à aujourd'hui. Et est-ce que ça vous fait rigoler, crassisme,
c'est déjà ça. Généralement, on m'accuse d'être obsédé par le passé, donc là, vous m'accusez d'être obsédé par l'avenir, ça me change.
Non, mais ça a dépassé votre personne, là. C'est quelque chose qui est assez général. Grand débat, il est quand même bien reçu par les Français. Il trouve ça comment ? Brice Latourier va vous le dire dans quelques instants.
Mediapolis continue jusqu'à 11h avec vous, Olivier Duhamel. Et aujourd'hui, à vos côtés, Eugénie Bastier, journaliste au Figaro, et Brice Teinturier, directeur général de l'Institut Ipsos.
Alors, monsieur Brice Teinturier, directeur général de l'Institut Ipsos, comment est-ce que les Français qu'est-ce que les Français pensent du grand débat ?
Écoutez, il l'accueille avec un fond de scepticisme, un fond d'interrogation, de défiance, mais malgré tout, ça les intéresse. On voit bien à travers non seulement l'audience des médias, mais également les enquêtes qu'on peut mener, qu'il y a une participation qui n'est pas négligeable, en tous les cas une participation déclarée aux alentours de 44%. Et je ne pense pas qu'on puisse être à la fois dans la critique, comme le font certains acteurs politiques. 44% des Français qui nous disent qu'ils comptent participer soit à un débat, soit à la consultation en ligne.
Mais ça, c'est une blague, c'est totalement impossible.
Mais
Quand les Français vous disent qu'ils vont aller voter aux européennes et qu'ils n'y vont pas.
On arrive d'ailleurs, monsieur Olivier, taux de mobilisation déclarés, quand même.
Et vous savez comment vous y arrivez, parce que vous savez, parce que vous mettez une échelle de 0 à 10 et vous comptez que ceux qui sont à 10.
Absolument.
Mais là, vous ne faites pas la même chose sur vos 44%.
Si on peut malgré tout avoir aussi des échelles.
Il
n'y
a pas 44% à 10. Il n'y a pas 44% des Français totalement certains d'eux.
Il n'y a pas 44% des Français totalement certains, ça on le sait, qui vont participer effectivement.
Voilà.
Mais le fait qu'il y en ait 44% qui nous disent qu'ils souhaitent participer est quand même un indice de l'intérêt. C'est-à-dire qu'on a d'autres sujets.
Ça, c'est vrai.
Donc il y a malgré tout quelque chose.
Si on a 5% même de participation effective, ce serait considérable.
Et ça sera,
d'habitude.
Je pense que ça sera probablement plus. Et c'est là la limite des critiques que l'on voit, vous citiez Alexis Corbière à l'instant.
Oui, ou Eugénie Bastier, que j'aime bien citer aussi.
On ne peut pas à la fois dénoncer avec justesse, je crois, un enjeu majeur dans ce pays de représentation politique, de sentiment qu'ont les Français depuis très longtemps qu'ils sont mal représentés. Et quand à un moment donné, un pouvoir institue, lance un grand débat national, le critiquer et dire que ça va faire des dégâts et que ça n'apporte rien.
Ouais,
et
à un moment donné, il faut être cohérent dans la critique.
Non, mais après, vous pouvez trouver que ce qu'on en fera de ce débat, ça c'est éventuellement demain une vraie question. Mais le fait de mettre en mouvement la société, de consulter les Français, de leur demander de s'exprimer de manière relativement ouverte aussi, me paraît aller quand même dans le sens justement d'un surcroît de prise en compte de leur avis et donc d'amélioration de la démocratie. Ça marchera, ça ne marchera pas, mais il y a quand même cette tentative.
C'est vrai, brièvement, je dis parce évidemment, qu'il faut personne ne peut être contre le grand débat. Le grand débat, c'est formidable. La participation des Français, c'est formidable. Et évidemment, posé comme ça, c'est difficile d'être contre. Mais je signale tout de même qu'il y avait d'autres options qui étaient possibles. Chantal Jouanneau elle-même l'a dit. Elle a critiqué le fait que le débat ait été cadré par le gouvernement, notamment dans les différents thèmes abordés. Elle a dit voilà, ça aurait dû être les Français qui décident les thèmes qu'ils voulaient aborder.
Que, les thèmes sont très larges et deux, on dit toutes
non, les thèmes ne sont pas très larges. Par exemple, sur l'immigration, il y a très peu.
C'est difficile de parler de l'immigration.
L'immigration, c'est rattaché à un des points.
Oui, mais c'est pas un thème à part entière et c'est quand même très cadré. Je suis désolée. Il y a un questionnaire en ligne à choix, où il faut cocher des cases à choix multiples. C'est pas des questions ouvertes. On a le droit de critiquer le fait que le gouvernement ait décidé de cadrer et peut-être d'enfermer un peu le débat.
Vous n'avez pas le droit de dire qu'il n'y a pas l'immigration quand il y a l'immigration. C'est suffisamment faire aller d'autres.
Surtout factuellement, c'est inexact. Si vous allez vraiment sur le questionnaire qui est mis en ligne, il y a justement la possibilité pour les Français, à travers des questions ouvertes, de donner leur avis sur des thèmes qui ne sont pas les grands thèmes qui ont été prédéfinis. Il y a les deux. Les cahiers de doléances sont aussi totalement ouverts. Donc il y a une structuration, ça c'est vrai, du débat, notamment sur les questions fermées autour des quatre grands thèmes d'une série de questions. Mais il y a également en parallèle, cette critique moi, me paraît peu fondée, il y a la possibilité pour chaque Français de sortir de ce qui a été cadré initialement.
Alors il y a un autre débat, parlons du grand débat pendant le débat à cause des événements, c'est le débat sur les violences policières. Écoutez l'échange entre Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise, et Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, mercredi à l'Assemblée nationale.
Jean-Philippe, 16 ans, perte de l'œil, LBD 40, acte 3, Béziers. Vanessa, 34 ans, fracture du crâne, hémorragie cérébrale et œil gauche atteint, acte 5, Paris. Plus jamais ça.
17 novembre, Chantal, percutée par une conductrice, prise de panique, elle meurt. Vous parliez, monsieur le député, du Puy-en-Velay. J'ai rencontré une fonctionnaire qui m'a raconté ces cris qu'on lui hurlait. On va vous brûler comme des poulets. Il n'y a pas une blessure différente entre un gilet jaune, un manifestant quel qu'il soit, et un policier. Il y a une blessure qui touche une femme, qui touche un homme. Mais ne cherchons pas à instrumentaliser telle ou telle blessure et cesser de mettre en cause systématiquement les forces de l'ordre.
Alors, est-ce qu'il y a instrumentalisation ou est-ce qu'il y a une juste critique d'excès de violence policière, Eugénie Bastier ?
Écoutez, c'est une équation très très délicate à régler. On peut pas, je pense qu'on peut pas répondre par oui ou par non. Il est évident qu'il y a eu des dérapages graves, qu'il y a eu des blessés vraiment très graves, notamment au niveau des yeux. Après, il est très difficile de supprimer les armes intermédiaires. Ce qu'on a probablement à faire plutôt à un manque de formation des policiers qu'à un véritable problème avec les armes intermédiaires, puisque je rappelle qu'après le 1er décembre et l'attaque de l'Arc de Triomphe, on a changé de doctrine au milieu des forces de l'ordre et on a créé ce qu'on appelle les dispositifs d'action rapide, des petits groupes habilités à aller au contact. Et dans ces petits groupes, il y avait des gens de la BAC et de la BST. C'est dans ces groupes-là qu'il y a eu le maximum de dérives. Donc je pense que c'est un problème de formation des policiers. On a eu un changement de doctrine des forces de la répression et du maintien de l'ordre. Il faut s'adapter et former mieux les policiers à l'usage de ces engins que sont les lanceurs de balles. Mais je ne crois pas qu'on puisse les supprimer et se passer de ça pour gérer ces manifestations où il y a un degré de violence inouï.
Et donc, est-ce qu'on a des outils de mesure de l'opinion nous permettant de dire que, à cause de ces des accidents tragiques qui ont lieu pour certaines personnes, il y a maintenant la montée d'un sentiment de défiance vis-à-vis des forces de l'ordre, ou est-ce qu'au contraire, à cause des violences également pratiquées par certains gilets jaunes, les Français restent ce qu'ils sont traditionnellement très très attachés à la police? Brice Teinturier nous éclaire dans quelques instants.
Chaque samedi, vous retrouvez Mediapolis avec Olivier Duhamel. Et ce matin, Olivier, vous recevez le directeur général de l'Institut Ipsos, Brice Teinturier, et la journaliste au Figaro, Eugénie Bastier.
Et Brice Teinturier va nous éclairer, en quelques instants, sur l'attitude des Français par rapport aux violences policières.
Dans une enquête qui sera bientôt publiée, on a mesuré justement le rapport des Français à la violence, à la police, etc. L'image de la police, elle reste extrêmement bonne dans notre pays. Donc les violences policières, ou ce qui a été perçu de ces violences, n'a pas affecté leur image globale. En revanche, le phénomène central, c'est le rapport à la violence des Français. On a 20% de Français qui justifient la violence en général. Et quand on rentre dans le détail d'un certain nombre de violences, on voit un véritable phénomène de relativisation de la violence, de justification d'un certain recours à la violence. Et ça, on ne l'avait pas ou pas à ce point il y a 5 ou 10 ans. Donc l'idée que la violence serait nécessaire, qu'elle permet d'obtenir des résultats, une façon de l'excuser ou de la relativiser, c'est le grand phénomène. Et c'est notamment très prégnant chez les sympathisants de la France insoumise, qui sont encore plus nombreux à considérer que la violence peut être justifiable ou explicable.
Très bien, pendant ce temps-là, la politique suit son cours et émergent ici et là les têtes de liste pour les élections européennes du 26 mai prochain. Et les Républicains se sont dotés d'une tête de liste assez marquée idéologiquement, on pourrait dire. Le philosophe et élu municipal François-Xavier Bellamy, écoutez-le sur Europe 1 mercredi dans le Grand Journal du soir.
Je ne nie pas qui je suis et je ne vais pas m'excuser d'être qui je suis. Je l'assume très posément, mais je l'assume très paisiblement et très sereinement. Et les idées que je défends ne m'ont jamais empêché de parler à tous et de parler de façon ouverte, intelligente et respectueuse. Je crois que nous n'avons aucune chance de convaincre qui que ce soit si nous ne savons pas dire qui nous sommes.
Alors il y a deux types d'attitudes par rapport à ce choix. Donc c'est un philosophe qui est... assez, on pourrait dire de façon non polémique, dans la catholique traditionnaliste assumée.
Non, chose que... pas traditionnaliste.
C'est
vous
pas
savez...
une insulte, hein, traditionnaliste.
Non, mais traditionnaliste, bon. Ça renvoie à quelque chose de très précis, bon. C'est-à-dire notamment une anti-Vatican II. Je crois pas, non, c'est un catholique. C'est un
d'accord,
catholique.
Mais catholique, vous en avez toutes sortes.
Oui, d'accord.
Un catholique opposé personnellement à l'IVG, qui avait soutenu les manifestations très activement contre le mariage pour tous, qui a appartenu à Sens Commun, donc qui est une partie de la droite catholique,
peut-être.
On peut dire.
Conservateur, peut-être.
Oui.
Mais je crois que...
Et alors les uns disent que donc ça marque forcément la liste, la campagne, etc. Et d'autres disent, mais procès hors sorcellerie, il a le droit d'être catholique traditionnel. Alors pas traditionnaliste, en effet, qui renvoie à un courant précis, mais traditionnel. Par opposition à catholique de progressiste, si vous voulez, et c'est pas, on n'a pas à lui en faire le procès.
Oui, je crois qu'on est face à un procès d'intention, parce que François-Xavier Bellamy a exprimé, parce qu'on d'ailleurs on lui a posé la question sur sa position personnelle sur l'IVG, tout en affirmant qu'il n'en ferait jamais un combat politique, en tout cas, ce n'était pas du tout au programme. Voilà, on lui prête des intentions derrière ce discours.
Et là, est-ce qu'il est juste sur un point, parce que c'est pas inintéressant, il y avait déjà eu le sujet sur Fillon, est-ce que c'est une maladresse? C'est-à-dire, on devrait dire, écoutez, mes positions personnelles ne regardent que moi. En tant qu'homme politique, je considère que la législation actuelle est satisfaisante. Ou bien, est-ce que c'est une chose juste que d'exprimer aussi ses convictions personnelles?
Moi, je crois que c'est tout à son honneur de dire la vérité sur ce qu'il pense. Je pense que aujourd'hui, les politiques souffrent de discrédit parce que, justement, ils cachent leur opinion, oui. Et qu'on n'a plus confiance en eux. Lui assume ses positions, il ne change pas d'avis. Et je crois que c'est tout à son honneur. Et on le ramène à ça, systématiquement, à la question de l'IVG. Je rappelle que on le présente comme maintenant François-Xavier Bellamy, virgule, opposé à l'IVG. Pourquoi mettre sans cesse en avant ça? Je rappelle que, par exemple, François de Rugy a prôné pendant la présidentielle la légalisation de la GPA. Quand on présente François de Rugy, on ne dit pas François de Rugy, partisan de la GPA. On ne le dit jamais. Alors pourquoi ramener François-Xavier Bellamy à cette position qui est une position parmi plein d'autres et qui n'est pas du tout au cœur de la campagne de l'Union européenne, des élections européennes? Je trouve qu'il y a un processus de diabolisation de l'adversaire qui est patent et qui est nuisible à notre démocratie, puisque je pense que François-Xavier Bellamy représente un courant, qu'il a des choses à dire et qu'il faut discuter ses positions sur l'Union européenne et sur les élections européennes, mais pas le ramener à des positions passées qui n'ont rien à voir avec le débat.
Alors, au risque d'être accusé de crassisme, c'est-à-dire d'obsession du demain, je vais demander à Brice Teinturier si c'est nuisible parce qu'une majorité de l'opinion n'est pas orientée de cette façon. Si c'est positif, parce que c'est authentique, comme le dit Eugénie Bastier, et peut-être au-delà, parce que ce sont aussi les positions de son corps, du cœur de son électorat. Et Brice Teinturier, il en a pris l'habitude. C'est pas qu'il ait besoin de réfléchir, c'est qu'il nous aide à monter le suspense. Il ne répondra que dans quelques instants.
Eugénie Bastier, journaliste au Figaro, et Brice Teinturier, directeur général de l'Institut Ipsos, sont vos invités ce samedi, Olivier Duhamel, dans Mediapolis.
Alors Brice Teinturier, directeur délégué d'Ipsos, atout ou handicap, ou ni l'un ni l'autre, Bellamy, tête de liste républicain aux élections européennes?
Je pense que ce qu'on a évoqué est plutôt un handicap, à savoir ses positions sur l'IVG, parce que, comme le disait Eugénie Bastier, il va être ramené pendant la campagne régulièrement à cette question-là, qui en réalité ne constitue pas le cœur d'une campagne européenne. Donc ça, c'est le premier handicap. Le deuxième handicap, c'est qu'il est toujours extrêmement difficile, et on l'avait vu avec François Fillon, d'exprimer des convictions personnelles et en même temps de dire que il ne les traduira pas, ne seront pas traduites politiquement, parce qu'on dissocie les deux. Ça peut être apprécié comme une forme de sincérité, mais c'est quand même un petit peu compliqué à comprendre, puisque c'est votre conviction, pourquoi votre projet politique n'est-il pas en adéquation? Et le troisième point, en revanche, est inverse. Il y a dans le pays cette sensibilité, elle est forte. Dans un scrutin abstentionniste, on l'avait vu lors de la primaire de la droite, dans un scrutin abstentionniste comme peut l'être les européennes, cela peut malgré tout permettre de drainer le noyau d'une partie de la droite. Donc globalement, je pense que c'est un handicap, mais qu'il peut y avoir une petite mobilisation de ceux qui sont les plus enclins à aller voter. Cela étant, ça le coupe aussi de la droite populaire. Donc c'est un dispositif, un positionnement qui est assez restreint.
Alors quand je vous entraîne dans le crassisme, vous êtes d'une prudence admirable.
Parce comment que... ça, je vous dis clairement que c'est un handicap.
Non,
donc...
vous dites que c'est un handicap, mais que ça peut être un atout pour mobiliser.
Non, c'est le troisième point. C'est dans un scrutin abstentionniste, pour mobiliser le cœur d'une partie de la droite,
c'est un atout.
À ce moment-là, ça peut au moins assurer ce cœur de mobilisation. Mais si on essaye de le quantifier, c'est quoi? C'est 10%, c'est 12% potentiellement, mais mettons que ce soit 4 millions d'électeurs. Sur un scrutin national avec un corps électoral de 45 millions environ, ça vous permet quand même d'être entre 10 et 12%, mais guère plus. Donc il faut autre chose.
J'ai bien fait de vous pousser dans mon retranchement, Brice Teinturier. Du coup, on a beaucoup mieux compris. Allez, un mot de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, loin de nous, au Venezuela, puisque c'est Alice Baudry qui surveille les médias à travers le monde pour nous, directrice de l'Institut de la stratégie du développement à l'Institut Montaigne, et qui a repéré un article très intéressant dans Time Magazine du 30 janvier sur le rôle de John Bolton. John Bolton, ce conseiller du président Trump. L'article nous explique que cela fait un mois que John Bolton prend toutes les mesures nécessaires pour faire tomber le président vénézuélien Maduro. Il a publié 23 tweets sur son compte depuis le 8 janvier, exprimant son désir pour un changement de leadership au Venezuela. Il a annoncé publiquement des nouvelles sanctions à hauteur de plusieurs milliards de dollars à l'encontre de Maduro et du monopole pétrolier national détenu par le pays Petroleros de Venezuela. Il a également rassemblé une vingtaine de pays pour soutenir Juan Guaido. Et ce qui est le plus frappant dans tout ça, c'est que ces jeux de pouvoir acharnés ne figurent pas dans sa feuille de travail normale. Son rôle en tant que conseiller à la sécurité nationale, c'est de coordonner la stratégie américaine, de mettre fin aux différents politiques, de proposer au président des options. Au lieu de quoi, dans le cas du Venezuela, Bolton est devenu un visage public très visible, très agressif sur les réseaux sociaux, à la télévision et toujours au rendez-vous des conférences de presse. C'est purement informatif, Eugénie Bastier. Je vois déjà une sorte de fureur monter en vous à la seule évocation de Maduro. Ce qui m'amuse d'ailleurs beaucoup d'un point de vue médiapolitique, c'est que ça fait très 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 longtemps que je n'avais pas vu des unes aussi opposées entre journaux du côté gauche et du côté droit. Et vous aviez d'un côté, Trump organise un coup de force au Venezuela, c'était l'humanité. Et vous avez de l'autre, soulèvement populaire contre Maduro ou quelque chose de ce genre. C'était le Figaro, c'était très intéressant de voir à quel point cette question divise nos médias. Mais aussi, c'est important et intéressant de voir le rôle du conseiller dans l'affaire. Ce qui ne suffit pas, à mon avis, ne devrait pas suffire à prendre une position ou une autre juste parce que. Mais il faut en tenir compte.
Moi, je pense qu'on peut tout à fait soutenir le soulèvement du peuple vénézuélien contre Maduro, qui, en effet, a tous les traits d'un dictateur, tout en dénonçant l'ingérence américaine et l'impérialisme américain en Amérique du Sud, qui est absolument scandaleux et contre-productif, à mon sens. D'ailleurs, John Bolton est quand même un néoconservateur très connu, qui a été un farouche partisan de la guerre en Irak, qui a suivi, je crois, participé à la commission d'enquête sur les armes biologiques supposées en Irak. Il est un farouche partisan également du concept de guerre préventive. Donc il appartient à une école de pensée qui a fait de sérieux dommages en politique internationale. Et ça montre aussi quand même l'incohérence de Donald Trump sur ce sujet, qui a quand même été élu sur un discours quand même non interventionniste, qui voulait rompre justement avec le messianisme américain, gendarme du monde, etc. Il disait nous ne sommes pas les gendarmes du monde. Et là, il a un discours extrêmement agressif envers Maduro, et ça participe du peu de visibilité de la politique étrangère de Trump. Et je crois que par exemple la France, elle, doit avoir une position beaucoup plus mesurée. Et je m'étonnais que Emmanuel Macron ait donné une forme d'ultimatum à Maduro. On peut tout à fait soutenir le peuple vénézuélien et demander la démocratie, mais poser un ultimatum en disant 8 jours pour organiser des élections, c'est reprendre, à mon avis, ce discours extrêmement impérialiste et messianique de l'occidentalisme néocon, et je trouve ça dangereux, et en général, ça finit très mal.
C'est assez subtil, hein, comme Eugénie Bastier doit marier son sentiment anti-néoconservateur, son penchant critique vis-à-vis de Macron, mais son désir de la démocratie
vénézuélienne.
C'est compliqué, hein, c'est très compliqué. Il y a un autre sujet encore plus compliqué qu'on va très brièvement aborder, parce qu'il y a encore deux sujets à traiter, après la dernière pause.
Médiapolis, c'est jusqu'à 11h avec vous, Olivier Duhamel, mais avec aussi le directeur général de l'Institut Ipsos, Brice Teinturier, et la journaliste au Figaro, Eugénie Bastier.
Oui, un autre débat, d'ailleurs très difficile, une question très difficile a surgi, qui est celle du traitement à réserver aux djihadistes français une fois que les troupes américaines se retirent, que Daesh se décompose. Ce qui m'a surpris quand même, c'est qu'on a pu entendre, même si c'était relativement mesuré, des positions assez extrêmes. Alors, pas la plus extrême, mais assez dure quand même. Écoutez Éric Ciotti.
Ces personnes ont trahi la France. Ces personnes ont combattu la France. Ces personnes ont combattu les valeurs mêmes de civilisation. Elles sont aujourd'hui en Syrie. Elles doivent rester en Syrie. C'est le problème des autorités syriennes.
Ça, c'était au micro de Virginie Riva sur Europe 1 mercredi. Vous avez des positions plus extrêmes encore exprimées par un parlementaire qui disait que l'idéal, c'était d'aller les tuer tous là-bas. Ce qui veut dire quand même que le sens minimum de nos principes et de l'état de droit est parfois sévèrement oublié.
C'est la question, est-ce que notre état de droit s'étend à des gens qui se sont mis délibérément en dehors de la nation et qui ont rien combattu. Oui, mais
si l'état de droit n'est que là que pour les défenseurs de l'état de droit, ça n'a pas.
C'est pour ça qu'il y avait toute la question. C'était toute la question que posait la déchéance de nationalité pour les djihadistes. Hein. C'était principalement pour les mettre en dehors de cet état de droit. Moi, je pense que c'est difficile d'avoir des positions extrêmement binaires sur ce sujet. J'avoue que moi-même, je suis partagée.
Il y a autre chose qui est un peu gênant. Il y a un grand principe qui s'appelle l'individualisation des peines. Oui. Il y a tout. On met dans une catégorie. Bien sûr. Djihadistes français qui restent, dans laquelle on amalgame, d'ailleurs pour être honnête sur ce point, Paciotti qui met les enfants à part.
Oui, c'est ça, mais les femmes et les enfants étaient déjà à part.
Dans laquelle on amalgame aussi des gens qui sont partis là-bas, qui n'ont pas combattu, qui ont été écœurés et qui ne sont pas encore rentrés et qui voudraient rentrer. C'est pas la même chose que quelqu'un qui a coupé les têtes.
Je suis d'accord, mais que faire d'individus dangereux qu'on va rapatrier sur notre sol? Et moi,
déjà distingué.
Voilà, non, mais ça, bien sûr, je suis d'accord avec ça. Je rappelle que voilà, nombreux sont ceux qui disent que, notamment le journaliste David Thompson, qu'il est vraiment difficile de s'assurer du repentir d'un djihadiste. Dans des prisons françaises dont on sait qu'elles sont déjà extrêmement pleines et que le prosélytisme est très fort et agit sur la radicalisation même des détenus, je pense qu'il faut peser la responsabilité et que les gouvernements qui vont rapatrier ces djihadistes doivent vraiment peser leurs responsabilités. Et moi, je suis d'accord avec vous, il faut peut-être distinguer entre les individus véritablement dangereux et ceux qui, en effet, peuvent être rapatriés.
Je m'en réjouis. Je voudrais vous poser une question un petit peu difficile, mais je crois importante, Brice Teinturier. Dans votre métier de sondeur, est-ce qu'il est des questions que vous vous interdisez de poser? Par exemple, est-ce que vous évitez, parce que vous interdisez, c'est peut-être un peu fort comme terme, de poser la question, est-ce que vous estimez qu'il faut qu'on aille tuer tous les djihadistes qui restent en Syrie, ou est-ce que vous estimez que non, ils ont droit à un procès, ou des choses comme ça, ou Il y a des questions limites ?
Alors, il n'y a pas de sujet interdit, mais il y a une façon quand même de poser les questions sur laquelle il faut être extrêmement vigilant. Si jamais on rentre dans ce type de questionnement, il faut que nous soyons capables de mettre en balance les arguments en faveur d'une position, les arguments en faveur d'une autre position, pour qu'on puisse avoir une réponse.
Mais là, vous le feriez, y compris, est-ce qu'il faut torturer un terroriste parce que ça permet d'éviter des attentats, ou est-ce qu'il ne faut pas torturer un terroriste parce que c'est contraire à nos principes fondamentaux? Vous pourriez poser une question comme ça?
Je ne peux pas vous répondre de manière générale. C'est à chaque fois en fonction du sujet et de la question, il y a des choses que nous ne ferons pas et des choses que nous ne faisons pas. Il y a des choses que nous ferons sous certaines conditions, c'est-à-dire en ayant encore une fois bien validé le mode de questionnement. Il y a des choses que nous ferons tout à fait parce que ça peut rentrer dans le débat public, même si ça ne correspond pas aux opinions des uns et des autres.
Donc votre réponse passe par la validation du questionnement. C'est un peu compliqué, on dirait du Macron. Vous voulez dire...
On essaie de regarder au cas par cas.
Vous voulez dire de donner les arguments d'une A et non A, les arguments pour et les arguments contre, c'est ça ?
S'il y a effectivement dans le débat public des arguments qui sont émis en faveur d'une thèse avec un clivage
même si
extrêmement
elle est
fort...
effrayante.
Qu'est-ce que vous appelez
Ce qui est sûr, c'est que le résultat serait sans appel, à mon avis.
Est-ce que vous trouvez qu'il faut découper en petits morceaux les assassins à l'enfant?
Mais ça, bien évidemment. Mais vous voyez la difficulté, Olivier Duhamel. Vous défendiez à l'instant, et avec raison, la question de l'état de droit. Et il est extrêmement difficile ensuite de dire qu'il y aurait des sujets ou des questions qu'il ne faudrait pas aborder, qu'il serait interdit de poser dans le débat public et de mesurer. C'est un débat complexe, on ne peut pas y répondre globalement. C'est à chaque fois, franchement, en fonction du sujet, des arguments, du contexte. Il faut le faire avec responsabilité, il faut le faire intelligemment.
Avec responsabilité, ce sera le dernier mot. Et heureusement, on n'en est pas encore là à découper en petits morceaux. Alors, pour terminer, nous avons choisi une chanson qui est liée à l'actualité au Venezuela, puisque c'est une chanson qui a été détournée par Nicolas Maduro, qui a repris en juillet 2017 le grand tube mondial Despacito, et du coup pour promouvoir les élections de son assemblée constituante. Et du coup, les chanteurs eux-mêmes ont protesté et ont dit que c'était inacceptable qu'ils l'utilisent à des fins partisanes comme ça. Alors voilà, on écoute Despacito, pas la version Maduro, la vraie. Vous pouvez faire écouter l'émission en podcast sur europe1.fr. C'est super les podcasts et c'est très facile. Il suffit de taper europe1.fr podcast Mediapolis. Merci beaucoup à Julien Blanc qui a préparé l'émission, à Alain Terdian qui m'a aidé à la préparer. Lui, il l'a réalisé, Julien. Et on se retrouve samedi prochain pour la prochaine émission de Mediapolis. Au revoir à tous.